Bienvenue à la French Connection, épisode 17.
Bonjour, cette semaine, nous sommes avec Richie, justement qui a fait de la super voix.
Salut, salut.
Avec Vincent.
Salut.
Damien.
Salut tout le monde.
Et Patrick qui va possiblement se joindre avec nous un peu plus tard aujourd'hui, étant probablement coincé dans des corvées que nous n'avons pas connaissance de. Donc, cette semaine, on a vraiment une barge de nouvelles. On va commencer avec Amazon S3 qui a dernièrement rajouté ou rehaussé sa façon de gérer la sécurité et l'encryption des données qui sont sur son service. C'est un peu pour faire un lien avec ce qu'on a parlé la dernière semaine au fait que S3 avait été un peu mis à mal par de la mauvaise utilisation parce que le service Amazon lui-même est très bon. Mais en ce sens-là, on a permis de pouvoir réaugmenter un peu puis réoutiller l'utilisateur pour moins se tirer dans le pied cette fois-ci. Vincent, t'as rien à rajouter sur le sujet?
Ah, ben non, moi j'ai rien à dire. Moi, est-ce que tout ce que en lisant entre les lignes, écoute, je te trouve très poli, Nicolas, outiller l'utilisateur. Ben en fait, c'est pour éviter que qu'un épais fasse une configuration un peu niaiseuse là, pour se faciliter la tâche. Là. Moi, je suis un petit peu plus drastique de ce côté-là.
Ben, ce qui est intéressant, c'est qu'en tout cas, ils ont écouté les utilisateurs. Ils se sont dit, l'utilisateur, à première vue, n'est pas capable de se prendre en charge. On va rajouter une nouvelle couche pour lui faire comprendre que l'informatique, ce n'est pas que cliquer sur un bouton. C'est quand même pas mal. Sachant qu'il faudrait aussi maintenant que tout le monde regarde aussi du côté des autres. Je prends juste un exemple que j'ai dû traiter cette semaine. Avec Google Drive, ou avec un dork Google, j'ai pu ressortir énormément de fichiers sauvegardés hein, dans des Google Drive et que certainement les internautes ont très mal configuré. Donc du coup, pareil, on se retrouve avec des bases de données. Donc c'est important aussi que ces sociétés prennent un petit peu plus en main leurs utilisateurs en leur faisant comprendre que une notice, c'est pas fait pour rien, il faudrait peut-être la lire.
Ah, mais même au-delà de la notice, c'est heureux ou malheureux, en tout cas, tout dépendant comment on regarde ça, mais les utilisateurs ne sont peut-être pas suffisamment éduqués ou ne disposent pas peut-être de la connaissance suffisante pour réussir à se protéger eux-mêmes, étant donné que c'est des technologies qui sont encore assez neuves d'un point de vue social. Donc, je trouve ça bien que ces grandes compagnies-là, en tout cas du moins Amazon est chef de file, mais que les autres, j'espère, vont emboîter pour limiter, en tout cas des réduire la quantité de dommages. Mais ça, c'est chez les gros hébergeurs. J'imagine que chez les plus petits, on est dans une situation un peu plus problématique ou moins reluisante.
Et puis surtout, c'est des sociétés qui, qu'on le veuille ou non, finiront par devenir responsables aussi du fait de ne pas avoir suffisamment éduqué leurs utilisateurs. Donc je pense qu'elles n'ont pas non plus envie de se retrouver devant un juge fédéral.
Ouais, c'est bien. C'est exactement ce que je voulais rajouter comme commentaire également. Ma dernière conférence à laquelle j'ai assisté, il y avait justement deux avocats qui parlaient du prochain niveau de responsabilité entre l'utilisateur et l'hébergeur, jusqu'où la loi peut se rendre pour justement désigner la responsabilité et puis désigner le coupable aussi dans le dossier si jamais il y avait une usurpation. Un vol de données, etc. Présentement, je pense que les gros hébergeurs, ils ont encore une bonne protection avec ces nouvelles technologies-là. Par contre, il y a cet aspect-là aussi qu'il faut pas négliger.
Mais c'est bien de tenir les hébergeurs aussi responsables jusqu'à un certain point parce que maintenant, s'il y a personne qui fait rien, on va tous se ramasser avec des gâchis. Et à la limite, il faut regarder ça comme de la santé publique. Il faut prendre des mesures un peu plus drastiques et encourager les gens à se prendre en charge à ce moment-là. Mais tant qu'à continuer sur Amazon, il y a le service Amazon de Amazon Key qui a été annoncé en grande pompe, le fait qu'il permettait aux gens de débarrer la porte automatiquement chez eux pour que les colis puissent se livrer à l'intérieur et non sur le pas de la porte. Ce qui en soi est une bonne idée parce que pour mon expérience avec les livreurs d'Amazon, dans un secteur assez passant, laisser un colis sur le devant ma porte en allant chez nous est un élément propice au vol par des gens qui passent dans le voisinage. Donc ça, mais de l'autre côté, c'est un peu creepy comme système. C'est-à-dire qu'il y a une caméra à la maison qui déverrouille la porte pour filmer le livreur qui dépose le colis dans la maison et reverrouille la porte après. Sauf que, et c'était inévitable, il y a quelqu'un qui a trouvé une vulnérabilité qui fait qu'il gèle l'image et ensuite la caméra demeure fonctionnelle et permet de continuer à regarder et donc de contrôler un peu la maison par un individu un peu plus mal intentionné.
Je sais pas si à un certain point on devrait pas être rendu avec des boîtes comme des boîtes de Purolator devant chez nous pour être capable de déposer et de barrer, d'avoir les paquets barrés là-dedans. C'est sûr que je sais pas s'il y aurait pas moyen de faire quelque chose comme ça ou bien en collaboration avec Poste Canada ou quelque chose comme ça, que tu sais, ça arrive au bureau de poste ou que tu peux aller chercher. J'imagine que c'est une logistique extraordinaire à pouvoir faire, mais ça éviterait ce genre de vol-là ou le genre de problème qu'on aurait au niveau technologique à ce niveau-là.
Ouais, mais c'est déjà weird d'avoir du monde qui rentre chez vous. Là. Moi, je suis un peu inconfortable de permettre quelqu'un ce genre d'accès-là à ma demeure, puis en plus qu'il y a des caméras qui sont filmées par Amazon puis qui permettent de voir ce que je vois chez nous. Mais pour Amazon spécifiquement, moi, je fais livrer à mon bureau de poste le plus proche de chez nous, en tout cas mon comptoir postal le plus proche de chez nous. Ce qui fait qu'à partir de ce moment-là, ils viennent pas livrer chez nous. Puis je peux aller récupérer le soir même au retour du travail et récupérer mes choses sans le risque d'exposer mes choses sur le perron devant chez nous.
Je pense que le problème, ouais, c'est une super idée, mais surtout, ça montre un gros problème, c'est que je pense que le consommateur, il devrait aussi s'éduquer un petit peu en se disant, il veut tout de suite. Bah, patientez, il n'y a pas le feu. À force de nous dire, on peut vous livrer quasiment en temps réel votre colis, ça devient complètement fou. Amazon avait aussi testé la livraison des colis dans le coffre de ma voiture. Le livreur ouvre le coffre, mais le colis ferme le coffre et s'en va. Je pense qu'à un moment, il faudrait aussi que le consommateur, il apprenne à être un petit peu patient.
Ben, ouais, c'est vrai que tout à fait démesuré. Puis je veux dire, personnellement, moi, le jour, genre, je suis pas chez nous, fait que le colis soit disponible le soir, c'est pas un grand défi. J'ai l'impression que c'est un modèle qui est, en tout cas, typiquement américain. Là, Damien, tu confirmeras ou contrediras ce que je dis, parce que j'ai pas l'impression qu'ailleurs dans le monde, on a ce degré d'urgence de recevoir une bébelle technologique ou un élément de consommation de façon normale.
Ben, d'autre façon, c'est leur marketing, hein, leur marketing de livrer le plus rapidement possible. Chez nous, en France, on a plusieurs choix. Donc, livrer à la maison ou au bureau. On peut se faire livrer aussi dans ce qu'on appelle des boîtes postales, donc directement à la poste, ou alors directement dans des magasins qui sont partenaires. Donc, en gros, le fleuriste, le bureau de tabac du coin, etc. On peut se faire livrer son colis chez ces professionnels-là. Alors, bien sûr, il y a toujours le frein de l'ouverture et des heures d'ouverture de ces magasins, mais il y a plein de possibilités autres que aller rentrer chez moi quand je suis pas là.
Ouais, là, semblerait que Jack Bauer aimerait ça toujours avoir ses objets immédiatement. C'est peut-être pour ça, justement, qu'on a une certaine excitation à recevoir les objets, n'est-ce pas, Richard?
Oui, exactement. Donc, dans le fond, moi, personnellement, j'aime ça. J'ai tendance à être impatient. Donc, je peux comprendre de pouvoir avoir mes choses, vouloir avoir mes choses tout de suite, c'est une chose. Mais non, je suis d'accord par rapport au fait de pas juste avoir une visibilité directement chez nous et ou de pouvoir ouvrir la porte sans que je sois là. Étant donné que je travaille de la maison, donc ça, c'est autre chose, là. C'est pas un problème rendu là. Souvent, j'entends pas la porte qui sonne. Mais bon, ça, c'est un détail. Mais de donner la liberté de que les gens puissent entrer chez nous, je suis pas vraiment d'accord.
Puis ça va être rigolo quand le livreur il va rentrer chez moi et que je suis en train de me promener tout nu dans ma maison. Je suis pas sûr que l'ambiance soit sympathique. Hein?
Je pense que ça va créer un malaise.
Ah, j'ai une image, moi ici.
Justement ce degré
vous
de
connaissez
malaise,
l'image bon, classique du facteur qui se fait courir par la petite bestiole. Là, on embarre le facteur dans notre cage avec notre grosse bestiole.
Ouais, c'est ça. Enfin, grosse bestiole, pas le portoir, hein, quand même.
Messieurs, un peu de calme. on va changer de sujet avant de glisser un peu trop loin. Et au passage, on va saluer Patrick qui vient de se joindre à nous autres.
Bonjour tout le monde.
Salut Patrick.
Et on va de tout ça, là, le McFest. Yes.
On va enchaîner avec que Microsoft a sorti des correctifs de sécurité.
Ah oui, Microsoft, là, pour son patch Tuesday du mois de novembre, il n'a pas fait semblant, je trouve. Hein. 53 vulnérabilités ont été corrigées. 25 étaient dédiées à de l'exécution de code à distance. 14 correctifs sont consacrés uniquement à Windows. Alors, c'est plutôt intéressant, hein. Ça montre que derrière, il y a une véritable armée qui corrige. Alors, moi, je trouve quand même que 53, c'est quand même pas négligeable. Alors, c'est très rigolo parce que on sait pas trop si c'est des failles qui étaient déjà dans la boîte magique de Microsoft, hein, vous savez, hein, ce fameux secteur qui était piraté, infiltré il y a quelques temps. Petit détail aussi, ils ont corrigé la fameuse vulnérabilité crack. Alors, ce qui est intéressant, hein, pour rappel, c'est celle qui visait le protocole sans fil WPA2. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que Microsoft n'a fait savoir cette correction, eh bien, simplement une petite semaine après que tout le monde soit au courant. Donc, ça veut dire qu'à mon avis, ils avaient très certainement aussi l'info entre les mains. Et puis, dernier petit détail côté correctif, parce que c'est important de rappeler que des patchs, il y en a tout le temps, et donc il faut les installer dans ces machines, dans ces serveurs, en tout cas tout ce qui peut être corrigé. C'est Adobe. Adobe non plus, hein, n'ont pas fait semblant. Eux, c'est carrément 62 vulnérabilités corrigées au mois de novembre. Alors, ça a surtout touché les applications Acrobat et Reader, mais ça montre que s'il y a faille, il y a très certainement eu derrière des zero day, et qui dit zero day, il y a très certainement eu infiltration. Par contre, ça, on n'est pas encore au courant.
Ben, c'est complètement fou la quantité de vulnérabilités qu'ils continuent à trouver. Là, pour... si, ce degré de correction-là, c'est bien qu'ils le fassent à une vitesse adéquate, mais n'empêche qu'effectivement, ils n'étaient peut-être pas les premiers à l'avoir découvert. Un peu comme dans la vulnérabilité de crack, j'ai l'impression que les chercheurs n'étaient pas les premiers à arriver. Et pour faire du pouce sur ce que Damien a dit, oui, Microsoft avait été informé d'avance. D'ailleurs, il avait informé plusieurs autres grandes distributions, dont OpenBSD, qui n'ont pas été capables de se retenir avec le délai de divulgation. Je pense qu'à peu près une semaine avant le délai de divulgation, ils avaient déjà envoyé le correctif dans leur fork de dernier à jour. Fait que ça a créé un malaise sur ce genre de choses-là.
Donc voilà, donc c'est plutôt intéressant effectivement de se dire que bon, ça corrige. Est-ce qu'ils étaient au courant? Est-ce que c'est aussi une pression médiatique qui leur impose de corriger autant d'un coup? Il faut juste espérer qu'il y en aura de moins en moins. Bon, ça, il faut quand même largement douter, hein, parce qu'on se dit bien que après tout, qui dit faille dit obligatoirement un petit bug qui traîne à droite à gauche. Intéressant aussi, c'est que pas mal de ces patchs de vulnérabilité ont touché les moteurs de recherche Edge et Internet Explorer. Donc voilà, et en parlant de moteur de recherche, je suis en train de tester en ce moment le nouveau Firefox. Je suis assez impressionné par la bestiole, aussi bien par vitesse que par les nouvelles possibilités offertes.
Mais c'est bien qu'il ait pris la peine de réécrire au complet tout le moteur de Firefox sur quelque chose de, mettons, de remoderniser toute cette plateforme-là vers quelque chose de, c'est, de plus intéressant. Là.
C'est vraiment, vraiment rapide. C'est vraiment, ça vaut la peine de l'essayer. Ça vaut même la peine de switcher. Je suis en train de revirer mon Chrome vers Quantum. Il y a des sites web que je regarde que c'est juste des centaines d'images, puis en une fraction de seconde, ça apparaît. Chrome, ça peut prendre des fois des dizaines de secondes. C'est vraiment impressionnant. Puis certains articles qui disaient même que c'était relié au fait que Chrome traque beaucoup trop ses utilisateurs, donc beaucoup de trackers on the side, des third party. Puis Firefox, peut-être qu'il y en a, mais qui aurait diminué énormément la chose. Et ça fait une méga différence.
Ah, il est clair que la différence, elle saute aux yeux. Hein. C'est impressionnant. Effectivement, c'est très judicieux hein, ce que tu dis, Patrick. C'est que je pense qu'il y a tellement de trackers maintenant dans nos navigateurs que je pense que c'est eux qui bouffent la bande passante. Hein, soyons très clairs.
Oui, et puis j'ai même vu un article cette semaine par rapport justement au, à du hacking relié au tracking. Que le, je ne sais pas si tu as entendu parler de ce terme-là, mais le tracking replay, que la plupart des third parties qui font de la pub, du tracking et autres, vont mettre des genres de keylogger dans les sites web en JavaScript, puis chaque requête qu'on fait va être envoyée sur les trackers. Fait en plus du privacy concern, on a le problème que chaque chose qui se passe sur un site web est envoyée à des centaines d'autres sites. Donc, ça, c'est sûr, ça ralentit.
Et puis si à ça on rajoute maintenant aussi les mineurs de bitcoins et de crypto-monnaies, je pense qu'on va bientôt finir d'être obligé de surfer avec des RAM tellement ça ralentit. J'ai jamais vu autant de sites, alors c'est beaucoup de sites malveillants ou en tout cas dits illicites, qui minent de la crypto-monnaie à partir des ordinateurs des utilisateurs. Ça devient complètement fou.
Ouais, je pense que ça s'appelle BitHive ou quelque chose comme ça. Là, Bitcoin mining
ouais,
directement
c'est
JavaScript. CoinHive, sorry. Je pense que c'était Paul qui était avec nous sur le podcast qui a fait une recherche là-dessus. qui a trouvé dans le top 1000 des sites web 25-40% plus ou moins qui utilisent ça. C'est des, dans les plus gros sites web sur la planète.
Ouais, c'est complètement fou, hein. Et d'ailleurs, l'un des premiers qui avait testé, qui s'est fait un petit peu couper les jambes, entre guillemets, ça a été The Pirate Bay. Mais il y a aussi au Canada, l'un des plus importants sites médiatiques qui a tenté de tester la chose. Si l'idée est très bonne, hein, ça permettrait éventuellement d'arrêter d'avoir des centaines de publicités à droite à gauche, pensant clairement que ça a été encore une fois repris de manière malveillante. Et malheureusement, j'ai peur que la roue, en tout cas cette mauvaise roue, continue à tourner et pas pour notre profit.
Ouais, on est rendu dans un univers où tout le monde essaie de se tirer de l'argent sur le dos de tous les consommateurs, peu importe la façon que c'est utilisé, même de façon tout à fait là, non éthique, mais ils vendent à rabais des produits, mais ensuite ils nous rechargent de choses par en arrière. C'est peut-être un peu malsain. Bon, ben, on va parler de l'antithèse du philanthrope avec Dark Overlord qui fait chanter des écoles.
Ouais, alors c'est le grand retour de ces pirates qui pour moi sont vraiment la plaie, hein, parce que c'est vraiment des gens, on le voit, on le sent, qui ont techniquement strictement quasiment pas de connaissances, à part celle d'utiliser éventuellement des dorks Google et Shodan. Mais Dark Overlord, hein, pour rappel, on en avait parlé parce qu'ils avaient attaqué par exemple la chaîne américaine HBO, ils avaient attaqué Netflix, ils avaient attaqué pas mal de sites internet chez qui ils avaient en tout cas détourné des informations et ensuite fait chanter, hein. Je ne diffuse pas vos séries télé si vous me donnez de l'argent. Sauf qu'on voit que derrière The Dark Overlord, on a clairement des populations qui ne pensent qu'à l'argent et qui, à première vue, en ont besoin de beaucoup d'argent, parce que je vois vraiment pas l'intérêt d'attaquer des dizaines et des dizaines d'entreprises. Ça veut dire que soit elles ne payent pas, ou si elles payent, ça veut dire que Dark Overlord a besoin de beaucoup d'argent. Mais toujours est-il que là, ils ont trouvé de nouvelles victimes. Donc après le cinéma, la télévision, après des hôpitaux, maintenant ils s'attaquent aux écoles. Depuis quelques semaines, ils se sont attaqués à des établissements scolaires aux États-Unis. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils essayent d'infiltrer des ordinateurs, ils essayent d'infiltrer en tout cas tout ce qui va leur permettre de voler des données sur les étudiants. Et ensuite, ils contactent les proviseurs, ils contactent les responsables des écoles, hein, des universités ou en tout cas des collèges, et ils leur disent, ben voilà, on a ça sur vos étudiants, vous nous payez, sinon on diffuse tout. Et ce que je trouve dramatique dans ce comportement, et j'avoue que j'espère qu'ils vont bientôt finir devant la justice, l'un des derniers messages qu'ils ont diffusé sur Twitter, accrochez-vous bien, c'était de dire, alors voilà, avec les répertoires des élèves de telle école que nous avons et que nous allons publier, eh bien, ça va particulièrement intéresser les prédateurs d'enfants qui peuvent maintenant facilement acquérir de nouvelles cibles. Pardon, hein, mais ce genre de comportement, c'est clairement intolérable.
Non, ça n'a aucun sens. La dernière chose que j'avais vue au Québec, mais en fait, c'était dans les Maritimes, là, dans les provinces du Maritime. C'était une école, je crois, dans le coin d'Halifax ou whatever, Nouveau-Brunswick, qu'une personne harcelait un autre étudiant en spammant tous les autres étudiants n'ayant obtenu le bottin ou quoi que ce soit, ou que je crois qu'il y avait accès à l'extérieur à une mailing list comme tous étudiants, quelque chose comme ça, qui n'était pas filtré, puis envoyait justement des photos nues ou autre chose comme ça. Fait que c'était vraiment terrible. Tout ça a été découvert plusieurs mois après. La personne, évidemment, la connaissait, mais était déménagée, je crois, au Maroc ou quelque chose, donc comme rien à faire, time zone, juridiction différente, etc. C'est vraiment un fléau, puis c'est dégueu, là.
Mais tout ça est fascinant parce que je me rappelle que de mon enfance, c'est un peu loin, mais quand même, où on avait un bottin avec le nom de tous les étudiants, tous leurs numéros de téléphone à la maison. On n'avait pas ce genre de problème-là qui existait. Il y a comme quelque chose socialement qui a changé, qui fait que les gens se sentent légitimés d'agresser de façon gratuite n'importe qui pour n'importe quelle raison. Quand, c'est pas si loin, là.
Donc, mettons, c'est fait
30 ans en arrière, mais c'était pas
si raison, mais le switch qui s'est fait, c'est vraiment le concept d'Internet que t'es loin. T'es physiquement pas devant la personne, puis t'as aucune conséquence si tu te fais pas prendre avec tous les concepts d'anonymité, d'être anonyme sur le web. Même si certains pensent qu'ils sont anonymes puis ils le sont pas, la plupart le font à cause de ça. La non-proximité fait que c'est plus facile à faire. Avant, faire la même chose, fallait fallait que tu les appelles, fallait que tu te présentes visuellement devant la personne. C'est bien plus dur, là. Cliquer sur un courriel ou te présenter puis envoyer promener des centaines de personnes dans une école physiquement. Le courage est très différent.
Donc, ce que tu étais en train de dire, il y a maintenant que un lâche peut, quelqu'un de paresseux et lâche peut le faire avec la facilité électronique, ben tant mieux. Avant, il fallait ouais, faire un effort.
Paresseux, lâche, même gêné.
T'sais. Il est clair qu'aujourd'hui, c'est ça. Il est clair que le lâche aujourd'hui, il est beaucoup plus content et heureux derrière ses écrans en se disant « j'ai cherché un peu 2-3 logiciels ». On en parlait hein, lors du Hackfest, un logiciel qui va spoofing de numéro de téléphone et puis il va téléphoner à qui il veut, il va faire n'importe quoi pensant être anonyme jusqu'au jour il va se rendre compte que l'anonymat a une certaine durée dans le temps et que s'il continue sur une longue durée, bah, il va très vite se faire avoir. Et j'espère que pour The Dark Overlord, ça sera le cas parce que là, inciter et expliquer que ce qu'il va diffuser sur Internet pourrait éventuellement intéresser les pédophiles, tout ça pour gagner quelques dollars, voilà, c'est dramatique et c'est vraiment dégueulasse.
Ah, c'est ultra dégueulasse. Puis je suis très préoccupé par ce genre de choses-là, ayant des enfants moi aussi. Puis dans ce contexte-là, j'espère que ça n'arrivera jamais dans cette proximité-là de mes enfants. Mais si on prend de l'autre côté, ce qu'on appelle les Jeannettes, en tout cas au Québec, ou en anglais, c'est les Girl Scouts, sont en train de développer des badges cyber qui vont favoriser l'apprentissage et la compréhension chez les jeunes filles de tout le volet cyber, dans le fond, le volet que ce que nous, on considère comme de sécurité. Donc, les outiller, les aider à comprendre ce genre de choses-là. Fait que j'ai l'impression que des initiatives de cette nature-là vont aider ou en tout cas défaire un peu, ou mieux se protéger contre les lâches qui se cachent en arrière de leur clavier d'outils, en tout cas du moins une partie de la population.
Parfait, parce que c'est ça. Hein, c'est l'éducation aidera à combattre ce genre de population, hein, de malveillants. Par contre, ce qui est intéressant aussi, et moi aussi qui ai des filles, hein, comme plusieurs personnes ici, il est important aussi de rappeler aux établissements scolaires de faire très attention aux données qu'on laisse de nos enfants dans leurs ordinateurs. Moi, je vais être très honnête avec vous, hein, si jamais j'apprenais un jour que l'une des écoles dans lesquelles mes filles se trouvent ou se sont trouvées n'ont pas sécurisé les données de mes enfants, je pense que, judiciairement parlant, je serais pas très gentil.
Ce qui est correct.
Ah, ben, moi, la même chose pour moi, là, ils vont passer vraiment un mauvais quart d'heure de façon, du moins, peut-être médiatique et judiciaire, là, parce que c'est inacceptable maintenant de tolérer ça. Là. Déjà qu'on essaie d'éduquer nos enfants à avoir des comportements décents et de non de devenir des trolls, s'il faut que les écoles dans lesquelles normalement sont les lieux d'encadrement ne sont pas en mesure de mettre les mesures adéquates, là, ça marche pas. Ben, changeons pour une autre nouvelle, peut-être un peu plus comique, celle-là en quelque sorte. Desjardins a employé pendant plus de 30 mois un employé qui n'avait pas tout à fait la bonne identité.
Oui, c'est public. Je vous ai fait le lien est dans le document partagé, le Google Doc. Je ne nommerai pas de nom. Par contre, vous pourrez aller voir là, l'article. Effectivement, la plus vieille méthode du monde a été employée par une dame. Donc, avec un vol d'identité, deux cartes, un permis de conduire, une carte d'assurance maladie. Elle a passé une entrevue chez Desjardins sous une fausse identité. Chez Desjardins, ils ont un bon service pour avoir déjà travaillé là et puis avoir évalué en fait le service de gestion des identités réembauche. Ils ont un bon service. Un ancien policier qui est habilité à comprendre qu'est-ce qu'une identité a réussi à passer dans les mailles du filet. Elle est embauchée. Était conseillère financière également. Wow! Et puis, 30 mois, était à l'emploi de Desjardins. C'est une personne qui a fait un appel anonyme pour la dénoncer. Et puis, l'enquête a démontré qu'effectivement, la personne qu'elle prétendait être, ce n'était pas elle. Et la personne en question, la dame en question, avait déjà fait l'objet de fraude dans le passé. Elle a déjà été condamnée aussi à ce sujet-là. Donc, il faut croire que notre système judiciaire ne l'a pas réhabilité parce qu'elle a poursuivi sa carrière de voleuse. Toutefois, la première enquête interne qui a été faite sur cette dame-là ainsi que les accès qu'elle avait, des portefeuilles de produits financiers, etc. Il semble qu'elle a détourné absolument rien. Elle a vraiment fait un job de conseiller financier de façon diligente et puis professionnelle, mais par contre, sous une fausse identité. Là, la dame attend de passer devant le juge. Alors, pauvre elle est déjà rendue à 54 ans. Et puis voilà. Pour moi, le pire l'attend, là, ça va, cette pauvre dame-là.
Pas très pauvre, je veux dire, c'est elle qui a fait l'attaque en même temps, mais ça fait deux cas de social engineering physique qu'on a, la personne chez Desjardins et notre super cuisinier qui passe à la télé qui s'est inventé une fausse vie. C'est vraiment cool de voir tout ce qui pop de fausse identité ces jours-ci, là.
Ouais, ben le cas du cuisinier, c'est vraiment juste une manœuvre marketing. Là. C'est pas grave comme la dame chez Desjardins où elle a vraiment été dans un contexte où elle touchait avec l'argent des gens. Le cuisinier, c'est juste qu'il voulait mousser sa business.
Ben, il a reçu des fonds d'aide pour créer des restaurants qu'il n'a jamais remis de l'argent à personne. Mais en même temps, créer un restaurant, la plupart du monde ne revoit jamais leur argent. Là, mais...
Il y a ça, puis de toute façon, je pense que la plupart des restaurants ont beaucoup d'histoires un peu disons discutables ou ont inventé quelques aspects. Fait que ça, je suis un peu plus. Je trouve ça pittoresque.
Ce qui est intéressant, c'est qu'il faudrait l'inviter, la dame, au prochain Hackfest, juste pour qu'elle nous explique comment elle a fait et surtout psychologiquement, comment elle a réussi à résister chaque matin quand elle arrivait au boulot en se disant à tout moment, je vais me faire avoir.
Ben, ça serait intéressant de regarder cet angle-là, voir tout ça pour dans une perspective d'éducation aussi pour les entreprises, savoir quoi faire, ne pas faire à l'avenir pour justement limiter ce genre de choses-là.
Pour une compagnie qui prend justement la sécurité, les bonnes pratiques, il y a encore des manœuvres, les plus vieilles manœuvres du monde, se faire passer pour quelqu'un d'autre qui faut pas fonctionne. Donc, Desjardins s'est fait prendre, OK, mais j'ai l'impression que n'importe quelle entité dans le monde aurait pu se faire avoir également. Là. Ça doit être une excellente actrice, cette dame-là.
Mais en ce sens-là, je ne lance pas une rush à Desjardins pour l'avoir ce que c'est fait avoir dans cette circonstance-là, parce que ce qu'on appelle un con artiste qui est vraiment bon va réussir... à faire ce genre de choses-là. Et c'est très intéressant que cette personne-là ait réussi à faire ça. Parce que, comme professionnel de sécurité, ce qui m'intéresse plus, c'est comment elle a réussi à contourner toutes les contraintes ou tous les contrôles qui ont passé dans le temps. Et ensuite, pendant 30 mois, c'est long, là. Et pour dire comme Damien, ben, comment elle a, à tous les jours,
pour ajouter que oui, ça, c'est l'histoire qu'on connaît. Combien d'autres qui arrivent dans le même temps, qui ont la même situation puis qu'on les connaît pas, qu'on le sait pas. Donc, ça revient au fait de pouvoir s'éduquer à ce niveau-là, de pouvoir être capable de voir les red flags, comme on dit. Donc, d'avoir d'éducation par rapport à ça. Donc, ça revient à l'idée de pouvoir l'inviter. Si c'était possible, ça serait super, parce que dans le fond, de pouvoir savoir plus de détails à ce niveau-là pour voir comment faire pour se protéger contre ça sous d'autres angles ou bien du point de vue de la personne qui le fait en tant que telle, je pense que ça serait un bon point.
Moi, ça me fait penser aussi au film Arrête-moi si tu peux. Vous savez, le film américain de Steven Spielberg de 2002. C'est exactement la même ambiance. Hein. C'est assez étonnant.
Ouais, puis c'est de là, tout cet individu-là qui existait pour de vrai a amené toute une réforme au niveau des chèques dans les banques parce qu'il a lui-même contourné le système pendant tellement longtemps qu'il y a en échange d'une liberté, d'une certaine liberté. Il a donné tout son savoir et toute sa compréhension du système et comment frauder le système pour aider à l'augmentation des contrôles. Fait que c'est un peu dans cet angle-là que cette personne-là pourrait être utile pour le milieu. Là. Oui, Vincent?
Oui. Voyons, je pense que j'ai perdu mon idée. Ah, Nicolas, te souviens-tu? Quand on s'est rencontrés chez notre ancien employeur commun, il y a une personne qui travaillait dans ton équipe qui avait le mandat de se faire embaucher par une entité gouvernementale ici à Québec. Et puis, parce que le directeur du département trouvait que ses employés étaient un peu sloppés. Alors, il a pris... Est-ce que tu te souviens de cette histoire-là?
Vaguement, mais je vais te laisser tout le mérite de la raconter.
C'est, en, En fait, le déroulement du mandat, c'est qu'on a attendu que le directeur, soit en vacances. Et c'est ce qui était prévu. Et puis, cette personne-là s'était présentée, ben, en fait, notre ancien collègue s'était présenté au bureau un lundi matin tout bonnement en disant qu'il venait d'être embauché par le nom du directeur qui était en vacances. Et en un avant-midi, il y avait un code d'utilisateur, il y avait une carte d'accès, il y avait un bureau, un poste de travail et puis des accès dans l'infrastructure. Et il était même rendu sur le payroll. Puis il a fait ça sans présenter de carte ou quoi que ce soit. Là. Il a juste rempli les papiers d'embauche, il a signé son vrai nom, puis il n'a jamais eu d'enquête à savoir si cette personne-là, notre ancien collègue, était réellement dans le circuit pour être embauché par le gouvernement, s'il avait fait les entretiens et tout et tout. Donc, ça s'est fait tout bonnement et puis très facilement.
Ouais, non, c'est ça, mais j'écoutais avec grande attention, effectivement. C'est peut-être une technique qui permettrait à de nombreux chômeurs de trouver du boulot. Aller directement dans l'entreprise qui vous intéresse, signer le papier, puis ça devrait être bon.
Effectivement, c'est une approche qui...
Donc, on ne cherche pas un emploi dans ces circonstances-là. On se trouve un emploi.
Ouais, c'est ça, exactement.
C'est une belle manœuvre. Passons à la prochaine nouvelle, puisqu'on a quand même beaucoup à passer aujourd'hui. GData a constaté beaucoup de malware.
C'est complètement fou. L'éditeur d'antivirus allemand GData vient de publier son nouveau rapport pour le second trimestre 2017. Ils ont découvert 810 965 nouveaux malwares. Ça fait pour le moment 2 258 387 nouveaux codes malveillants ciblant Android pour cette année. Et ils pensent que pour le 31 décembre, on va arriver à 3,5 millions de codes malveillants pour Android. Je sais pas vous, mais d'ici 3-4 ans, il y aura bientôt plus de codes malveillants que d'applications dans nos téléphones portables. C'est complètement dingue. Ça veut dire que le business est là, mais bientôt, la boutique de Google, ils vont plutôt commercialiser des logiciels malveillants. C'est fou. Plus de 3 millions et demi. On se dit que déjà, il faut les coder. Ensuite, il va falloir les serveurs pour collecter les données. Et ça prouve surtout que ça doit rapporter non pas des millions, mais des milliards de dollars.
Ça doit être ridicule. As-tu une idée du nombre de... famille de malware? Est-ce qu'ils en ont parlé un peu ou?
Non, ils en ont pas parlé encore parce qu'effectivement, tout ça peut se regrouper dans des familles, mais eux parlent très clairement de nouveaux codes malveillants ciblant Android. Donc, si c'est
ça
des
reste
nouveaux.
C'est ridicule en termes de nombre, là, des millions de différents malware virus. Donc, c'est jamais vu, mais en même temps, je veux dire, ça veut presque dire que tout le monde en a un. D'installer.
C'est ça, parce qu'après, quand on regarde un peu les rapports, comme celui de GData, dans un code malveillant, ça peut être dans les applications, ces fameux logiciels de minage, justement, mais aussi de publicité. Alors, ça peut être aussi du keylogger, ça peut être aussi ces fameux outils qui se servent dans les données. Il y en a tellement qu'on se dit que ce système Android est tellement ouvert que ça fait peur, en fait.
Ah, mais c'est le revers de toute l'ouverture du système Android. Donc, d'un côté, il y a beaucoup de monde qui prêche pour ce volet-là, mais de toute apparence, ça a des incidences très négatives. Et avant de donner la nouvelle avec Richer, est-ce que vous voulez un keylogger à votre clavier?
Oui, donc quand j'achète quelque chose, j'aime ça en avoir pour mon argent. Donc ça, c'est une chose. Mais le problème là-dedans, c'est que le clavier, on a toute une vague de plusieurs claviers pour pouvoir jouer à des jeux et qui sont lumineux et tout ça. Donc, on s'entend, c'est peut-être une centaine de dollars normalement, si pas plus. Et il y a certains claviers, ce modèle-là en particulier, on va pouvoir le voir dans le lien dans les show notes. C'est le Mantis Tech GK2. Ce clavier-là, c'est un beau petit clavier mécanique. Donc, déjà là, on porte déjà un peu plus de qualité. C'est le fun de pouvoir avoir, pour ceux qui aiment ça, en tant que tel. Non, moi, j'adore ça, mais bon, c'est pas pour tout le monde. Celui-là, il allume, il est tout bien cute. Mais il vient aussi avec une application qui est installée en arrière-plan qui va collecter certains keystrokes. Donc, qu'est-ce qu'on tape au clavier pour essayer d'optimiser, voir comment que le temps réponse quand quelqu'un va pouvoir taper quelque chose, quand ils vont pouvoir réagir pour voir comment optimiser des trucs au niveau des jeux, ces choses-là. Donc, en réalité, c'est bien beau, mais ce que ça fait, c'est que ça collecte quand même des informations et c'est poussé sur le cloud pour la compagnie en tant que telle. Et c'est on s'entend, là, c'est qu'est-ce qu'on va taper au clavier? Ça peut être des mots de passe. Donc, qu'est-ce qui est collecté là-dedans? Est-ce que c'est filtré? Et si c'est filtré, ben quand même, le clavier sait déjà qu'est-ce qui a été rentré comme données. Si on regarde dans l'article, qui était quand même bien détaillé, il explique aussi comment pouvoir enlever ce programme-là d'arrière-plan. Mais c'est quand même étonnant et ça fait peur un peu, là, parce qu'en réalité, ce genre de choses-là, on n'est pas à l'abri de ça parce qu'on a besoin d'avoir des logiciels compagnons, qu'on pourrait dire, avec des équipements pour pousser le maximum, comme par exemple pour les souris ou comment pouvoir ajuster la configuration de certains boutons macro. Ça, je comprends ça, mais ça, on n'est pas à l'abri de ce genre de choses-là. Combien d'autres claviers qui sont comme ça, qui ont déjà ces fonctionnalités-là cachées, qu'on n'est pas au courant, que ce n'est pas nécessairement malveillant de la part de la compagnie qui l'a fait. Ce n'est pas nécessairement quelque chose qui était voulu comme étant un keylogger en tant que tel, mais à la base, c'est ce que ça fait. Donc, ça récupère les informations et ça les pousse sur le cloud. Donc, c'est pour ça que c'est un petit peu... ça fait peur.
Ben, c'est un peu... En tout cas, du moins, du côté de iOS, je suis un peu moins familier du côté Android, mais ça doit être similaire. C'est que quand Apple a ouvert l'accès aux développeurs tiers, l'accès aux claviers, pour faire des claviers personnalisés, qui est une très bonne chose en soi parce que c'est très agréable, mais cela, c'est qu'en même temps, ça permet à des tiers de capturer tout le contenu de ce qui est tapé. Dans un cas de téléphone intelligent, c'est encore plus évident le lien entre la capacité logicielle de capturer ce que l'utilisateur tape et de l'envoyer dans le nuage. Mais là, c'est encore plus épeurant parce qu'on est rendu dans un stade où notre clavier physique, dans lequel on a fondamentalement une confiance aveugle, permet ce genre de choses-là. Puis Damien faisait un lien là, très intéressant avec le fait que c'était plus en Chine que ça se passait.
Oui, exactement.
Oui, c'est ça, c'est que... Ouais, c'est ça, c'est que ce clavier, en fait, ce qui m'inquiète moi le plus, c'est que, alors, le constructeur a expliqué qu'en fait, il recevait le nombre de fois où on cliquait sur les mêmes touches, soi-disant, pardon, hein, je dis soi-disant parce que moi, ça m'inquiète quand même, c'est soi-disant pour voir l'usure de ces touches. Sauf qu'un petit détail, les informations étaient envoyées dans l'une des plus grosses boutiques chinoises qui collectaient les informations. OK, donc ça veut dire qu'à tout moment, ils pouvaient aussi éventuellement, quand ils vont le souhaiter, récupérer ce que je vais taper. Donc, moi, ce qui m'inquiète aussi, c'est que ces gens-là ne prêtent pas du tout attention à la législation. Il faut savoir qu'en Europe, cette collecte de données est totalement illégale. Donc, OK, ils veulent savoir combien de temps ma touche P, la touche Z, je ne sais trop quoi, va avoir comme durée de vie pour me la remplacer. Mais qu'est-ce qui me dit que dans une prochaine mise à jour, ils vont pouvoir mettre bout à bout ce que je tape pour avoir les phrases complètes et là, avoir un vrai keylogger?
Oui, c'est un très bon point. C'est justement, encore là, vient l'intention de la compagnie en tant que telle, on ne le sait pas, on ne peut pas le connaître, on peut juste penser qu'ils vont faire ça dans un bon sens, mais on ne sait jamais, étant donné qu'ils vont avoir l'information rendue là, qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça? Et comme tu disais, Nicolas, on a une confiance aveugle avec nos claviers, nos équipements, comme ça, on s'attend à ce que c'est quelque chose qu'on utilise tellement qu'on s'attend à ce que ça fonctionne, puis on ne pense pas nécessairement au fait que, bon, je devrais faire attention à ce que je tape dessus, j'ai besoin, quelle autre unité d'entrée de données, à moins qu'on le tape avec un écran tactile qu'on a sur un ordinateur, c'est quelque chose d'essentiel dans l'utilisation de l'ordinateur. Donc, on pense pas réellement, bon, comment je vais faire pour, quand je rentre mes mots de passe, je les entrerai pas avec le clavier, je vais faire ça autrement. C'est pas quelque chose qu'on pense, là. On réagira pas cette façon-là. Donc, c'est important de pouvoir au moins le savoir que c'est des choses comme, parce qu'on sait que ça fait longtemps que ça existe des keyloggers, mais c'est le principe justement de la confiance aveugle qui est malheureusement, on n'a pas le choix et qu'en bout de ligne, c'est pas la réaction par défaut, c'est pas de penser à se protéger à ce niveau-là.
Puis ça, c'est sans compter s'ils mettent pas ces données-là sur un S3 bucket. Yes.
C'est ça.
Ah, mais tout ça, dans l'ensemble, c'est pas très rassurant. Puis de toute façon, pour faire un peu de pouce sur ce que tu as dit, Richer, ces compagnies-là, peut-être qu'a priori, ont des intentions qui sont légitimes et de façon, puis de toute façon, Damien le disait aussi, là, c'est pour l'usure, des choses comme ça. Mais inévitablement, on peut pas prédire ce que ces informations-là vont être utilisées dans un an ou s'ils sont conservés, ils vont être éternellement utilisables et malicieusement utilisables.
Oui, dans le fond, pour enchérir là-dessus, c'est effectivement... C'est eux autres, peut-être, qui voudront pas faire quelque chose de malicieux avec, mais si et quand ils se font pirater, si les gens récupèrent cette information-là, à ce moment-là, par exfiltration, ils peuvent se faire avoir par la bande, ce qui est triste parce que c'est pas nécessairement leur intention au départ. Mais étant donné qu'un piratage peut arriver n'importe quand, les données qui sont collectées sont pas à l'abri. On ne sait pas comment c'est collecté. Est-ce que c'est encrypté sur disque? Comment c'est placé? On ne sait pas. On n'a aucune idée.
Il faut pas oublier surtout qu'ils sont les inventeurs de l'art de la guerre et que pouvoir faire rentrer l'ennemi directement dans la maison de la personne qu'on veut éliminer et activer ensuite le matériel permettrait éventuellement d'être plus efficace en cas de problème économique, voire pire.
Ah, t'es bien pessimiste. Mais je suis entièrement d'accord avec ce regard-là des choses. Puis on va clore là-dessus. Le fait qu'on a un élément spécial dans le logo du Hackfest.
Yes, personne n'a encore trouvé l'information, mais certains m'en ont parlé récemment, donc je voulais rapporter le tout. Si vous regardez le logo de la French Connection, on a une série de chiffres en bas de l'hexadécimal qui veut dire quelque chose. Et si vous trouvez ce quelque chose, il y aura des prix tels qu'une entrée pour le prochain Hackfest et peut-être plus encore, dépendant de votre solution, etc. Donc, essayez de trouver la solution. Ce serait vraiment cool de voir qui trouve ça. Et la phrase n'a pas vraiment de sens, mais c'est une phrase.
Allez, je vais donner, puisque moi je l'ai trouvé, je vais vous donner une toute petite énigme. Ça va vous aider, j'en suis sûr. Poutine.
Il y en a beaucoup qui vont rechercher un mauvais
place. Mais Damien, on sait que tu as une fixation sur la poutine, donc même si c'était peut-être cet indice-là est un leurre.
Je suis un serial killer de la poutine.
Sur ça, fait qu'on va clore le 17e épisode du French Connection. Fait que, messieurs, je vous remercie de votre présence. C'était très agréable de jaser avec vous autres.
Merci.
Yes. On se revoit bientôt. Bye.
Au plaisir.
Salut et à bientôt. Over and out.